Bonjour à toutes et à tous, les cinéphiles, cinévores, ciné-gourmets, gourmands, ciné-curieux, ciné-à la bourre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du Journal des Rencontres, votre magazine sur Fréquence 7 qui donne la parole aux invités des Rencontres des Cinémas d'Europe tous les jours à midi et 17h. Et dès demain, d'ailleurs, nous vous donnons rendez-vous à la médiathèque d'Aubenas où nous posons nos valises et nos micros pendant toute la durée du festival pour que ces 27e rencontres des cinémas d'Europe vous plongent résolument au cœur du 27e art et vous envoient, on l'espère, pas loin du 27e ciel. Sylvain fronce les sourcils, il se dit « Quel est ce jeu de mots nul ?»
C'est le 27e art, le cinéma ?
Je vous laisse, auditrice, auditeur, faire votre propre... Alors, aujourd'hui, il y a toute une équipe, donc comme toujours, Sylvain qu'on vient d'entendre derrière ces émissions. Salut Sylvain.
Salut.
Mais il y a aussi des bénévoles et néanmoins amateurs de cinéma, voire quelquefois des professionnels, comme Alexis qui est avec nous aujourd'hui, qui va interviewer Guylaine Lassiaz. Je rigole, puisque ça, c'est le plaisir de ces rencontres des cinémas d'Europe. C'est l'imprévu, c'est l'impromptu, on ne sait jamais ce qui va arriver. Notre invitée, Guylaine Lassiaz, nous attend à la médiathèque, donc elle va revenir, elle va venir dans quelques instants. Guylaine Lassiaz, donc intervenante pédagogique cinéma, qui vient nous parler de Marcel et Monsieur Pagnol, ou plutôt comment se fait cette médiation autour du cinéma grâce à ce film. Alors Alexis est parti chercher Guylaine, donc on l'attend, et peut-être, justement en l'attendant, on peut écouter la bande originale, la musique du film de Marcel et Monsieur Pagnol.
Colline que l'on appelle Garaban, sous un soleil de plomb, où les hommes parlent en chantant et les tissus blancs sèchent au gré du vent. Adieu, je verse une larme sur le quai, les souliers sur le marchepied du wagon. Le sourire vivant encore et résonne au fond de mon âme de garçon. Pour définir ce que je suis, les hommes auront sans doute un vieux dicton qui dit que les chiens ne font pas des chats, que l'occasion fait le larron. Paris m'attend, ma ville on sait. Maintenant que le train s'éloigne, ira petit C, comme l'espoir des gens d'ici, comme l'espoir des gens d'ici. Du tabac sec, presque rien dans les poches. Sur la capitale, près des bords de Seine, les artistes peintres peignent à l'aquarelle des cathédrales et des tours Eiffel. Quand le jour et la ville se réveillent, à l'orée de l'aube, je traverse la ville dans ce tramway derrière la corniche au bout du monde, avant que les années nous fassent de l'ombre. Le port, je vais lever l'ancre, la revoir en été, je vais lever l'ancre, ne plus pouvoir en rêver, en rêver, ne plus pouvoir en rêver, la vie dans chaque soupir, voir défiler les années, ne plus pouvoir en guérir, la Méditerranée, dans sa robe azur, sous son ciel doré. Quand revient l'obscur et des instants figés d'amis sur des vieilles photographies, flâner sur l'écran, boulevard, entrer seul en taxi, un peu morose la routine quand l'hiver me chagrine. Mais je reverrai ma colline, à la rosée de l'aube, je traverse la ville dans ce tramway derrière la corniche au bout du monde avant que les années nous fassent de l'ombre comme les voiles qui quittent le port. Je vais lever l'ancre, la revoir en été. Je vais lever l'ancre, ne plus pouvoir en rêver.
On vient d'entendre la bande originale de Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet qui sera projetée tout à l'heure à 14h avec une rencontre avec Guylaine Lassiaz qui est notre invitée, en tout cas qui sera notre invitée, on l'espère, dans quelques minutes. Alexis est parti à sa recherche. Comme on vous le disait, c'est toutes les inattendus des rencontres des cinémas d'Europe. Toute cette semaine, donc à midi et 17h, vous pourrez nous retrouver à partir de demain, effectivement, à la médiathèque d'Aubenas. Mais encore aujourd'hui, donc à 17h, vous pourrez nous entendre, puisqu'on sera avec Joanna Lapinska et on parlera du cinéma polonais. Joanna Lapinska, qui est une programmatrice artistique et directrice de festivals, notamment l'un des plus grands festivals du film polonais en Pologne, qui nous a fait une petite sélection de 5 films pour les rencontres des cinémas d'Europe. Et ce sera, j'en suis sûre, un entretien passionnant sur ce qu'est le cinéma polonais aujourd'hui, encore probablement empreint de toute cette tradition polonaise où le bien, le mal, la religion n'est jamais bien loin, ou peut-être qu'on se fait de mauvaises idées, mais on en parlera donc tout à l'heure, ça ce sera à 17h, et puis donc à partir de demain midi, vous pourrez nous retrouver à la médiathèque d'Aubenas, et on sera avec Sarah Camidian, coordinatrice d'Intimité. Si vous voulez d'ailleurs vous-même poser quelques questions aux invités, vous serez les bienvenus, on fera passer un micro à la médiathèque, donc pour parler de ce nouveau métier de la coordination d'intimité, un rôle essentiel maintenant sur les plateaux avec Sarah Camidian. Ça ce sera demain midi à 17h. On a le grand plaisir de recevoir et d'interviewer Agnieszka Holland, grande cinéaste européenne qu'on ne peut pas réduire évidemment au cinéma polonais, qui vient pour présenter ici Franzka, sa version personnelle intime de Franz Kafka, qui est plus, alors on parle souvent de biopic, mais au-delà même du biopic, qui est une quête, peut-être une recherche de qui est Franz Kafka. Franz Kafka est une question, et je pense que ce film est aussi une question avec des points de vue différents. C'est vraiment un film d'ailleurs que je vous conseille. Ça ce sera donc demain, l'interview avec Agnieszka Holland, demain à 17h, et puis le film sera projeté dans la foulée au Navire à 20h avec une rencontre avec Agnieszka Holland, et puis le film bien sûr il sera visible pendant toute la durée du festival. Mercredi on parlera aussi, je me tourne, non, notre invité n'est toujours pas là. Mercredi, on parlera avec Olivier de quel film on parlera. En tout cas, on sera avec Antoine Lancio pour parler du Secret des Mésanges, bien sûr. Mais au-delà de toute l'animation française, puisque vous savez que Olivier se pique d'animation française et de films pour enfants, et qui nous fait tous les vendredis sa petite chronique, bien souvent du cinéma jeune public, de ce qu'on met entre les deux oreilles des plus jeunes. Donc, il nous parlera donc de festival d'animation avec Antoine Lanciot pour Le Secret des Mésanges. Ça, ce sera donc mercredi 19 à midi. Ensuite, on aura le plaisir aussi de recevoir les invités de Happy Ends, Chloé Lacan et Thibaut Defeuvert, qui concoctent un concert qui se vit comme un film au Théâtre de Vals mercredi. Jeudi, on vous emmène, et ça c'est l'une des spécificités d'ailleurs de ces rencontres des cinémas d'Europe, qui essaient de vous inviter derrière les coulisses pour apprendre et pour découvrir certains films de la grande machine du cinéma. Et là, on aura l'opportunité d'être avec une productrice, Pauline Seigland, pour voir comment on produit un film, tout ce que ça recouvre. Et vous allez voir, c'est passionnant. On aura la chance, nous, Fréquence 7, d'être avec elle. Ce sera jeudi midi. C'est René d'ailleurs qui s'entretiendra avec Pauline Seigland jeudi à 17h. On sera avec Thomas Lacoste pour Soulèvement, son film Soulèvement. On parlera d'écologie et puis de mouvements, d'engagements sociaux-écolos. Donc ce sera jeudi à 17h. Vendredi, je termine, puisque vous en voulez toujours plus, vendredi, on sera avec Elena Mika-Beritz pour son film Blueberry Dreams, réalisatrice géorgienne. Là aussi, c'est tout l'intérêt de ces rencontres des cinémas d'Europe, de nous plonger dans des cinémas qu'on connaît assez peu, le cinéma géorgien en l'occurrence. Et puis, vendredi, il y a 17h, deux invités, à la fois Tamara Stepanian, dont vous avez pu déjà peut-être voir « Mes fantômes arméniens », donc cinéaste, réalisatrice arménienne, qui nous plonge donc à la fois dans son Arménie intime, avec ce film « Mes fantômes arméniens », et également avec un film qui sortira dans quelques semaines, je crois, « Le pays d'Artaud », en tout cas qui est en avant-première ici avec Camille Cotin et Denis Lavant, notamment. « Le pays d'Artaud », donc Tamara Stepanian, qu'on aura la chance d'interviewer vendredi à 17h. Et puis, en même temps, donc ce sera une double interview vendredi, avec Pierre-Luc Grandjean, et notre ami Olivier poursuivra sa quête du cinéma jeune public. Donc il nous parlera avec Pierre-Luc Grandjean, bien sûr, une nouvelle fois du Secret des Mésanges, mais aussi de ce superbe programme d'animation pour les plus jeunes, Les Bottes de la Nuit et autres films. Voilà. Quant à nous, on sera aussi... Génial. Je terminais. Venez. Les invités arrivent dans les studios. Bonjour. Prenez place. Guylaine Lassias, qui vient nous parler de Marcel et Monsieur Pagnol. Mais il n'y a plus que vous. Il n'y a pas Alexis. Mais si, il arrive. Cette émission va pouvoir prendre son cours normal. En tout cas, donc... ne manquez pas non plus vendredi à 15h. Là, ce ne sera pas retranscrit, mais on vous donne rendez-vous directement à la médiathèque d'Aubenas pour une table ronde autour des médias et le métier de journaliste qui, évidemment, est complètement différent aujourd'hui. Un métier sous influence. Une table ronde, donc, co-animée par nous, Fréquence 7. Et voilà, maintenant je laisse la place, Alexis qui reprend son souffle. Guylaine, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et merci d'avoir couru de la médiathèque à nos studios de Fréquence 7.
Petite question, c'est Ghislaine ou Guylaine?
Comme on veut. Depuis ma naissance, on me dit Ghislaine, mais je suis ouverte à toute proposition.
Ok.
Ghislaine.
Voilà.
C'était la petite
merci,
question.
Merci de subtilement me remettre dans le droit chemin, peut-être, s'il y en a un. On ne sait plus. Si vous voulez, pour reprendre votre souffle encore, on peut écouter la bande-annonce de Marcel. Non pas et son orchestre, mais Marcel et Monsieur Pagnol. Allez.
Il faut savoir tirer sa révérence.
Ah non, il est hors de question que vous arrêtiez d'écrire. Marcel, mes lectrices raffolent de votre travail. Elles veulent tout savoir de vous.
Qu'est-ce que tu veux, Marcel ?
Je veux pas que tu écrives n'importe quoi sur nous. Parce que partout où tu es allé, je suis allé.
Simone ! Ça y est, je suis mutée à Paris ! C'est là que tout se passe !
Provincieux !
Si l'écriture ne marche pas, je pourrais me remettre à enseigner.
Et être malheureux devant ton tableau jusqu'à la fin de tes jours ?
Eh ben, c'est pas comme ça qu'on va devenir célèbre, hein ?
Et pourquoi tu n'écrirais pas une pièce qui se passerait chez toi, à Marseille ?
J'ai le point.
Ce Marius, c'est un chef-d'œuvre.
Ce succès n'a pas l'air de te faire plaisir, Marcel.
Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?
Et action !
Alors, Ghislaine, vous êtes intervenante pédagogique spécialisée dans l'analyse et l'histoire du cinéma depuis près de 20 ans. Vous allez tout à l'heure au cinéma Le Navire nous éclairer sur Marcel et Monsieur Pagnol, le nouveau film de Sylvain Chaumet. Oui. Mais avant tout, parlons de vous. Aujourd'hui, quel est votre rôle dans le cinéma ? Mais en fait, déjà, quel est votre parcours ? Parce que ce serait intéressant. Et qu'est-ce que c'est d'être intervenante pédagogique ?
Alors oui, sur le parcours, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que la plupart des collègues qui, comme moi, interviennent en salle de cinéma ou dans des institutions culturelles ou avec d'autres publics, ont quand même un parcours très souvent d'études de cinéma et très souvent aussi ont un métier en relation avec ça, que ce soit des journalistes, des critiques ou des écrivains tout simplement sur le cinéma et qui interviennent par ailleurs, qui ont une fibre pédagogique ou conférentielle et voilà. Alors, moi, j'ai pas du tout ce parcours-là du tout. C'est-à-dire que je suis passée par des études de langue et de culture européenne. Je passe un peu les détails, mais dans un cursus où j'avais la possibilité de prendre énormément d'options où je voulais dans n'importe quel département. Et j'ai presque tout axé en cinéma parce que c'est une vieille passion, vraiment d'enfance. Et d'ailleurs, c'est vraiment un rapport avec Pagnol parce que j'ai la chance de travailler sur Marcel Pagnol depuis 2 ans. Et c'est vraiment un cinéaste qui est très très cher à mon cœur depuis très longtemps. Et donc voilà, j'ai fait ce parcours-là. Et puis petit à petit, de stage en connaissance, je suis rentrée à la Cinémathèque française à Paris. Qui avait cette grande particularité pour une institution culturelle d'avoir un service pédagogique à part entière, vraiment dédié à la question de la transmission pédagogique, à une époque où se sont créés les dispositifs justement pédagogiques. Et ils avaient un système de formation en interne où la transmission se faisait par observation, par écoute, par évidemment connaissance aussi quand même d'informations autour du cinéma, histoire, esthétique, histoire des techniques aussi. Et puis après, on était jetés dans le grand bain et on venait nous dire si voilà, la pédagogie était présente ou pas. Et puis assez vite, je suis moi-même devenue formatrice des conférenciers avec qui on travaillait. Et puis j'ai travaillé dans les bureaux et créé des activités. Moi, je m'occupais des actions d'initiation pour les groupes scolaires en particulier et les visites guidées du musée. Voilà, en gros, pour le parcours. Et votre question était aussi autour de la situation aujourd'hui. C'est aussi une situation un peu de hasard aussi. J'ai travaillé une douzaine d'années, un tout petit peu moins à la Cinémathèque. Et puis après, j'ai dû déménager dans le sud de la France. Et du coup, je suis redevenue conférencière comme quand j'avais 20 ans. Et je suis associée à une association qui s'occupe plutôt de faire des interventions audiovisuelles de pratique, et en particulier en cinéma d'animation. Et puis, voilà, je suis un petit peu la part esthétique, théorique et historienne du cinéma au sein de cette association.
Très bien.
Qui s'appelle la Cinémobile.
Et donc aujourd'hui, on va parler de Marcel et Monsieur Pagnol, comme on disait tout à l'heure. Mais avant, je voudrais juste, en off, on s'est dit que justement votre métier était en difficulté. On parlait peut-être que, en tout cas, en tant que directeur de cinéma, dans 20 ans, je savais pas si mon métier allait encore exister, mais le vôtre est encore plus en danger, on va dire.
Le métier de la transmission, il est très sollicité. Donc j'ai envie de dire, il y a presque plus d'occasions de transmettre le cinéma qu'il y a 20 ans. Ça, ça a bien fonctionné. Là, c'est la toute la filière, là, un petit peu, qui est touchée. Ben voilà, on sait tous qu'il y a quelques restrictions, interrogations budgétaires au niveau, en particulier, bien sûr, toujours de ces domaines un peu fragiles que sont la culture, bien sûr, et l'éducation. Et là où ça se situe, alors si on veut vraiment parler très concrètement, c'est vrai que c'est des métiers où, et là je parle pas que pour moi, c'est vraiment, mais les personnes là qui s'occupent du festival, c'est vraiment beaucoup d'investissement et beaucoup de croyances, j'allais dire, mais d'investissement personnel, de voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la passion, qui fait que, ben, comme souvent, on essaye de faire passer, de s'arranger, de faire passer les problèmes budgétaires après. Bon, ce qui fait que moi, personnellement, dans mon cas, ça veut dire des tarifs que j'ai pas augmentés depuis 12 ans. Et puis, ben, même ça suffit pas, parce qu'aujourd'hui, ben, il y a un peu moins de financement, on le voit dans les régions, sur les directions des affaires culturelles parfois, ou les académies de l'autre, et il faut composer, et là c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant, quoi. Alors, il y a une grande mobilisation de tous les acteurs qui font beaucoup d'efforts. Malgré tout, moi c'est la première année que je ressens les effets quand même de ces restrictions-là. Bon, voilà. Donc c'est vrai qu'on s'interroge, mais on est toujours à pied d'œuvre, hein, y a pas de problème.
Donc à suivre, et
à suivre.
On est tous combattants.
Exactement.
Voilà. Ce qui était intéressant aussi, c'est comment vous travaillez avec les salles, les enseignants, les publics, quand vous choisissez les films, là, que vous avez choisi, donc Marcel et Monsieur Pagnol, comment vous l'avez choisi, parce que j'ai vu qu'il y avait un dossier pédagogique sur le film qui est très très intéressant. Est-ce que vous recevez le dossier pédagogique, ou alors c'est vous qui allez le chercher?
Ouais, alors moi, je choisis pas spécialement les sujets vraiment, c'est-à-dire que je suis contactée, c'est un réseau, en fait, c'est un tissu. Je connais une personne qui en connaît une autre, et puis voilà, c'est aussi par affinité humaine en fait qu'on travaille ensemble. Et là, bah, par exemple sur Marcel et Monsieur Pagnol, c'est un réseau de salles qui s'appelle Les Écrans en Drôme-Ardèche qui organise une petite tournée, si vous voulez, pour d'accompagnement autour du film, de ce film-là, mais aussi deux films de Marcel Pagnol qui, depuis l'année dernière, ressortent au cinéma, sont restaurés et ressortent au cinéma. Et après, voilà, si on me propose évidemment quelque chose qui est très, 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 très loin de mes préoccupations, bah, je vais pas faire de l'imposture et je vais pas accepter. Je peux conseiller d'autres personnes, à la limite. Mais là, il se trouve que, comme je vous le disais, Pagnol, c'est vraiment un auteur qui m'est très cher, que je connais bien. Et j'ai accepté avec grande joie de faire coïncider l'utile à l'agréable, ouais. Et après, ça fonctionne sur la confiance, les gens me font confiance, et je prépare mon intervention qui a vocation à s'adapter à tous les publics, c'est-à-dire je suis face à des publics adultes ou à des publics enfants, voire scolaires, et voilà, il faut adapter le ton et peut-être la durée de l'intervention, mais moi en tout cas dans mon cas, j'essaye de ne jamais réduire le niveau avec lequel je m'adresse aux gens.
Okay. Je peux poser une petite question. Est-ce qu'il y a des films jeune public qui ne sont pas pensés aujourd'hui avec un accompagnement? C'est-à-dire que au niveau de la production, parce que je me dis c'est intéressant, mais aujourd'hui, dans la filière cinématographique, est-ce que on pense encore, enfin, on fait des films jeunes publics sans penser qu'il peut y avoir un accompagnement?
Oui, je pense que c'est aussi, si, je pense quand même, parce que c'est d'abord par jeune public, il faut voir quand même quel public, parce qu'il y a beaucoup de programmes de courts-métrages qui sont distribués et qui sont façonnés, entre guillemets, pour faire connaître des auteurs de courts-métrages, particulièrement en cinéma d'animation, et là ça s'adresse aux tout-petits, et c'est vrai qu'en général, sur du public plus jeune, on s'attend à ce qu'il puisse y avoir un accompagnement, mais vraiment pas systématiquement, hein. À vrai dire, l'accompagnement, il y en a à la fois beaucoup, et à la fois, par rapport au nombre de séances qui se jouent dans les cinémas tous les jours, assez peu au final. Et puis, bon, bah, vous avez toujours les films dits jeunes publics qui sortent sur les écrans avec beaucoup plus de couverture. Et là, il n'y a pas d'accompagnement spécialement attendu. Hein. Et puis, il existe encore quand même toujours les dispositifs d'éducation au cinéma qui se jouent un peu en salle, mais aussi à l'intérieur des salles de classe où là, un intervenant peut aller...
Mais parlons du film maintenant, Marcel et Monsieur Pagnol. Donc, Donc ce film fait découvrir Marcel Pagnol à travers l'animation. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette proposition? Et je dirais même qu'apporte l'animation que ne peut pas apporter un film à prise de vue réelle?
Oui, c'est une bonne question parce que le projet de départ, c'est un projet donc, biographique initié par le petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol, et qui avait vocation à être documentaire, vraiment avec des images d'archives, des photos, etc. Et j'expliquerai tout à l'heure à la séance comment on se dirige petit à petit vers un film d'animation en entier. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, le film d'animation permet d'apporter de la poésie et de la fantaisie et de représenter aussi des scènes que Pagnol a relatées dans ses écrits, parce qu'il a beaucoup écrit sur son cinéma, sur sa vie, enfin voilà, sa vie professionnelle, et des moments aussi de récréation, entre guillemets, avec sa troupe de comédiens, des parties de boules, etc. Mais de ça, on a peu de traces d'archives, de photos, ni même de films. Et évidemment, le cinéma d'animation, du coup, peut recréer ça, sans avoir recours à des acteurs qu'on devrait grimer, puisque vous verrez que le dessin de Sylvain Chaumet est assez réaliste. Et donc, on peut vivre des choses qui ont été décrites par écrit par Marcel Pagnol, mais qui, là, du coup, sont en images. Et puis aussi, ça permet des transitions à travers le temps, puisqu'on balaye quand même une trentaine d'années. Faudrait que je fasse le calcul plus précisément, mais de la vie et de la carrière de Marcel Pagnol. Et il faut avancer dans le temps, hein, parce qu'on a une heure et demie. Donc, il y a de très belles transitions que permet le cinéma d'animation, justement, pour passer d'une époque à l'autre. Moi, ce serait ça que j'apprécie dans le film en particulier. Je trouve qu'il y a des beaux fondus enchaînés, des belles idées de passer, pour nous faire passer d'un temps à un autre, d'une atmosphère à une autre.
Et vous avez d'autres exemples de films qui vous ont marqué? Moi, quand je pense à des films d'éducation, un petit peu comme ça, la transmission, moi, ce que j'ai appris, par exemple, c'est La valse avec Bachir ou Persepolis, à l'époque. Et c'est vrai que là, plus récemment, alors je ne sais pas si le film a été accompagné, mais La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, qui est un sujet très, 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 très dur, mais qui passe par l'animation et qui peut être très intéressant pour traiter le sujet difficile.
Oui, alors c'est vrai que là, vous citez des films qui ont un aspect historique, politique. Les films d'animation, moi, ils me touchent à plusieurs niveaux. Il y a effectivement... Et puis, le cinéma d'animation, c'est aussi vaste. Ce n'est qu'une technique du cinéma. C'est du cinéma à part entière, mais c'est qu'une technique, en fait, supplémentaire, on peut dire. Donc, on retrouve absolument toute la diversité du cinéma, puisque c'est du cinéma. Par exemple, des films plus proches de l'histoire, mais des films aussi plus proches de la fantaisie. Après, je ne sais pas si mes goûts personnels sont très pertinents comme ça, mais si vous voulez savoir, moi j'aime beaucoup les films en papier découpé, par exemple. Vous avez un film simple mais très beau qui circule en ce moment en Ardèche, qui est Le secret des mésanges. Enfin, je m'intéresse beaucoup finalement à l'aspect créatif de ces films en général. Mon film préféré qui est présent dans un ouvrage que j'ai écrit, c'est Le hérisson dans le brouillard, qui est un film russe que j'adore, par exemple.
Aujourd'hui, on est dans la transmission. Et en tant que directeur de cinéma et vous, intervenante, nous éduquons les spectateurs donc de demain. Avec un film d'animation comme celui-ci, quel outil vous donnez aux élèves pour comprendre ce qu'ils viennent de voir, en fait?
Alors, moi, j'ai le sentiment... c'est vrai que j'utilise pas ce mot... J'ai pas l'impression d'éduquer les gens, du tout. Moi, j'ai plutôt l'impression de partager un éveil du regard. C'est-à-dire, je suis intimement persuadée que les spectateurs voient absolument tout du cinéma, mais que, voilà, hein, ça passe très très vite, et puis c'est un moment de divertissement. C'est ça, la difficulté aussi du cinéma, c'est qu'on y va pour se divertir, et ma foi... Bon, il y a peut-être des choses sur lesquelles on pense pas plus, et moi je prends mon rôle comme un rôle qui permet de montrer justement ou d'éveiller le regard par des pistes parfois avant la projection ou dans les discussions, donc dans des échanges aussi. Alors j'apporte des informations techniques, historiques, etc., mais j'ai l'impression aussi que j'essaye de montrer aux spectateurs qu'ils ont vu plein de choses, mais qu'il suffit, voilà, il faut aller le dire, il faut peut-être en discuter entre nous, et puis aussi, surtout, ce qui me tient très à cœur, c'est ce problème, presque, entre guillemets, qu'est le cinéma, qui est une industrie, mais aussi un art. Donc moi, je me situe plutôt du côté de l'art cinématographique, et donc j'essaye d'entraîner le public de ce côté-là. et de montrer bah oui, qu'il y a une histoire du cinéma, qu'il y a plein de choses autour de tout ça, quoi. Donc voilà, c'est une ouverture culturelle, un éveil du regard, je le prends plus comme ça.
Dans la présentation de vos séances, vous faites une intro, vous faites et après ensuite une discussion, j'imagine, et vous ouais. adaptez en fonction du public.
Alors moi j'aime bien effectivement procéder comme ça, c'est-à-dire une introduction, la projection, un échange avec le public ou un apport personnel quand le public est un peu trop timide, ce qui arrive aussi. Mais parfois on me demande pour des questions de programmation de faire une introduction un peu plus longue avant et puis après il y aura peu d'échanges. Ou alors aussi, il y a la formule conférence. Enfin, on peut s'adapter de différentes manières. Et puis, il y a même... Après, j'ai des partenaires culturels avec qui je travaille, ou parfois, par exemple, une classe vient voir un film, et après, moi, je prolonge en proposant un petit atelier de réflexion qui ne se concentre peut-être pas que sur le film, mais par exemple sur un thème ou d'autres choses. Donc, vraiment, les formules sont très ouvertes et sont toujours déterminées en discussion avec les différentes personnes qui m'invitent ou avec qui je travaille. Voilà.
Et vous vous confrontez un petit peu à la réticence parfois des enseignants ou autres qui n'ont pas forcément toujours, ou les salles qui n'ont pas toujours l'habitude de voir ce genre de film, ou pour les élèves qui ont peur de l'animation, du thème, qui pourrait peut-être choquer, parce qu'on est de plus en plus dans la... Je trouve que les... Alors on a autant l'extrême que l'inverse, mais les parents des fois sont parfois trop à l'extrême et tout de suite on dit oh, là ce qu'il va aller voir c'est peut-être trop juste, ou alors oh, bah, c'est pas grave, on laisse aller le voir et puis on verra ce qui en retourne.
Peu confrontée à des problèmes de choix vraiment parce que je travaille avec des relais qui eux relaient ce choix, justement font la proposition de ce choix. Après il faut quand même avouer que moi j'ai vu le public évoluer, ce qui est normal, mais j'ai vu aussi les appréhensions du public évoluer. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a... Oui, c'est pas pour le citer, mais je travaille en particulier quand même souvent sur la peur au cinéma. Il y a une quinzaine d'années, ça ne posait aucun problème de véhiculer un atelier autour de la peur du cinéma, au cinéma. Et aujourd'hui, il y a des petites inquiétudes, je le sens bien, de dire attention, il y a des précautions à prendre, il faut pas que ça fasse peur. Ben, par définition, ça va peut-être faire un petit peu peur, mais voilà, je crois qu'on confond un petit peu les émotions avec les traumas quand même. Effectivement, on n'est pas là pour traumatiser les spectateurs, en tout cas, pas de manière involontaire. Mais ouais, je trouve qu'il y a il y a quelque chose qui est de l'ordre du gommage des émotions. Là, je parle de la peur, mais c'est pareil, il ne faut pas que ce soit trop triste. Des fois, on me demande ça. Hein. Est-ce que ça fait peur, est-ce que ça fait pleurer, ou il ne faut pas trop que ce soit... Et alors moi, justement, ma cinéphilie à moi, c'est que je vais au cinéma pour ça. Donc, si vous voulez, voilà.
C'est ça. Et, ouais, et vous avez parlé de toute façon, en termes de cinéma, c'est l'éveil des émotions.
Oui.
C'est la sensibilité. Enfin, c'est justement comment... notre sensibilité devient un outil,
absolument.
Et donc un outil critique, une prise de distance, discerner le cinéma du réel.
Et ben vous avez prononcé les deux mots que j'aurais dû prononcer depuis le début, qui est sensibilité et critique, vraiment. C'est vraiment la sensibilité, c'est très important de montrer qu'on peut être sensible et de rendre sensible aux images, aux sons et à l'environnement finalement, à tout ce qui nous entoure. Mais en se rendant compte aussi que toute sensibilité, oui, a son apport critique, ça c'est sûr. Ouais, tout ça, c'est très important. C'est plutôt effectivement dans ce domaine-là moi, que je me situe et que j'essaye de montrer que finalement, voilà, c'est bien. D'autant plus qu'il ne faut quand même pas se leurrer. En général, je ne voudrais pas trop généraliser, mais souvent les personnes qui se montrent un peu réticentes en se demandant ce que tel ou tel intervenant va faire, c'est des enfants de 5 ans qui voient des films qui ne sont pas du tout pour leur âge. Donc à un moment donné, il y a aussi... des professionnels, entre guillemets, qui peuvent conseiller. Et parfois, il faut faire un peu confiance, mais voilà, j'ai pas non plus, je rencontre pas non plus des réticences énormes, mais je sens quand même une inquiétude qui a grandi ces dernières années.
Et j'ai une dernière question. Alors, c'est un petit peu... pour avoir votre avis, aujourd'hui, certains cinéastes, comme Guillermo del Toro, défendent une nécessité de préserver donc, le savoir-faire. Donc, je parle du stop-motion. Avec notamment la création d'un studio à l'École des Gobelins, à Paris, contre les effets de l'intelligence artificielle, notamment. Qu'en pensez-vous ?
Alors, moi, j'ai envie de dire que... Alors oui, je connais le cinéma de Guillermo del Toro et son investissement dans la pratique du cinéma d'animation en volume. Mais j'ai envie de dire que il faut tout simplement garder cette pratique, l'inscrire contre. Je suis pas sûre que ça la que ça la favorise. Moi, je dis tout simplement qu'il faut effectivement ne pas perdre ses savoir-faire très importants, qui donnent en plus quand même des images assez, assez belles, et en parler surtout beaucoup. Enfin, moi, je pense que si, par exemple, pour Guillermo del Toro, si l'intelligence artificielle se présente comme quelque chose de dangereux, je pense que moins... Moi, c'est mon avis très personnel, là, pas du tout pédagogique. Moins on parle des choses dangereuses et moins elles auront pignon sur rue. Et si on parle beaucoup de cinéma en volume, de pratique, ou, et qu'on fait pratiquer de plus en plus de personnes là-dessus, bon, ben, ça va rester, quoi, ça va se transmettre. La transmission, c'est vraiment important. Et puis, eh ben, j'imagine que d'autres personnes s'occuperont de l'IA, mais ils s'en occuperont, voilà.
Et puis, il y a le plaisir de faire. Il y a tout le processus. Et donc, que faire contre le plaisir ? Rien.
Oui, de faire. Puis c'est important de nos jours de garder une pratique manuelle. Parce qu'on fait beaucoup de choses avec l'IA, c'est aussi tout à fait. Oui, c'est ça. On incarne le geste, on incarne, bien sûr. Ouais.
Eh bien, merci Ghislaine pour ce temps que vous nous avez accordé.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Donc, retrouvez Ghislaine Lassiaz, si je ne dis pas de bêtises, au cinéma Le Navire à Aubenas à 15h30, avant et après la projection du nouveau film de Sylvain Chauvet, Marcel et Monsieur Pagnol, projeté à 14h. Rendez-vous pour la prochaine émission. Retrouvez le prochain journal des rencontres cet après-midi à 17h. Nous irons faire un voyage en Pologne en présence de la directrice et programmatrice polonaise Johanna Lapinska, qui nous fera découvrir la richesse du cinéma polonais. Et si vous en voulez toujours plus, vous pouvez réécouter et podcaster toutes nos émissions sur www.fréquence7.net.
Merci beaucoup.
Merci.
Bon festival.
Merci.